Nous reprenons, c'est la suite du chapitre 1, le livre de la nature. Nous venons de voir les deux premiers personnages de la pensée écologique, Saint Bernard, Saint François, et nous entrons maintenant, vous avez sous les yeux le plan, avec un deuxième groupe, je les ai mis sous l'intitulé « Jouir du monde », Hildegard von Bingen et Saint Bonaventure. Hildegard von Bingen est contemporaine de Bernard et Saint Bonaventure, un siècle après, disciple, et lui, disciple de Saint François. J'ai donné comme intitulé de ce second groupe « Jouir du monde », c'est-à-dire « Fruitio », en tirer du fruit avec cette dimension de plaisir, d'épanouissement. Hildegard von Bingen, dont est né en 1098, décédé en 1179, donc à peu près à 25 ans près contemporaine de Saint Bernard, elle est bénédictine, alors que lui est cistercien. Nous l'avons rapidement mentionné dans « Mes six visions du monde ». Et je disais alors qu'elle était typique de cette période où tout était pensé sous les mêmes règles, celles de l'harmonie, de la proportion et des accordailles. Alors un peu plus de précision sur cette pensée. Hildegard est allemande, bénédictine, abbesse, et elle est dotée de visions. Elle a des visions nocturnes ou non, et elle dicte ses visions, et elle les décrit, et des enlumineurs, des scribes, prennent tout en note. Ce sont quasiment des petits traités d'anthropologie qui expliquent l'homme en son milieu naturel, l'homme en connexion et en communion avec le monde alentour, avec les saisons, les cycles astraux, les proportions des paysages, les besoins des végétaux, etc. Elle écrit même de la musique, elle propose des recettes, et elle est même créatrice d'une bière que deux petits malins du nord de la France ont eu l'idée de commercialiser. Vous l'avez ici en image. Elle s'appelle page 24, parce que c'est le folio numéro 24 des manuscrits de Hildegard. Il y avait une recette de bière, et ils ont eu la bonne idée d'essayer. Et bien ça donne une bière qui est, ma foi, tout à fait réussie. Alors ces visions seront reçues par le pape de l'époque, Eugène III. Et heureusement pour elle, hein, parce qu'ils se sont rencontrés à Trier, parce que ces visions sont quand même très étranges. Mais le pape d'alors, non seulement reçoit ces visions, mais donne son accord pour leur publication, lors d'un concile local à Trier. Et s'il donne son accord, c'est parce que cette perception de l'homme en harmonie avec le monde, exprime parfaitement la pensée de l'Église sur les harmonies générales. Mise en théorie à la période carolingienne, cette façon d'être au monde pose d'emblée que le Logos divin a tout ordonné selon des règles harmoniques qui ne se sont pas perdues. Ces règles ordonne la santé du corps humain, ce qu'on appelle les humeurs, les gammes musicales, les proportions architecturales, les orbes célestes, les lunaisons, la pharmacopée. C'est une sorte de permaculture totale. C'est ainsi, qu'outre la pharmacopée, un moyen pour l'homme de se relier avec la nature créée, c'est la musique. Il y a même une véritable musicothérapie. Voilà ce que Boès, au 5e siècle, à la fin du 5e siècle, au début du 6e, dit. Il y a trois sortes de musique. La musique cosmique, c'est-à-dire les orbes célestes, le ciel, la lune, ça fait de la musique, dit-il. La musique de l'âme et la musique instrumentale. Correctement pratiquée, celle-ci, la musique instrumentale, aide la seconde, la musique de l'âme, à s'accorder à la première, la musique cosmique. Et Hildegard, tout simplement, va appliquer ce type de théorie que le monde carolingien va beaucoup développer. Hildegarde est bien connu de nos jours. Hein. Je rappelle que le pape Benoît XVI en a fait un docteur de l'Église. Vous avez ici l'abbaye sainte Hildegarde à Heiningen. Et elle est surtout connue d'ailleurs, dans le monde, disons, en dehors du petit cercle catholique, elle est surtout connue pour ses recettes de pharmacie et de tisane. Mais en fait, elle croit vraiment, et voilà tout l'intérêt, hein, elle croit vraiment retrouver dans la nature les herbes, les racines, et même les positions que nous avons par rapport aux orientations, le soleil, les vents. Elle croit retrouver dans ces essences naturelles, quelques traces de l'Éden. Ce n'est pas le chaos qui vient sourdre de la nature, mais l'Éden, le paradis. Il est toujours là, si vous voulez. Il a été quelque peu enseveli sous les décombres, mais il est toujours là. Il y a des restes de paradis. Ça, c'est extraordinaire. Le paradis n'est pas perdu, il rhizome. Et il vient jusqu'à nous par ses rhizomes. Et il nous veut. Tout est là, donc, dans la nature, dans la musique, dans les proportions architecturales, dans la pharmacopée. Tout est là pour prendre soin les uns des autres. C'est-à-dire les hommes prennent soin des arbres, les arbres prennent soin des animaux, les animaux prennent soin des plantes, les plantes prennent soin des arbres, des hommes, etc. Et donc, à nous de travailler à cette harmonie générale. C'est quelque chose de tout à fait fabuleux, et je comprends très bien que ça fascine nos contemporains. L'autre personnage que j'ai regroupé sous cet art de jouir du monde, c'est Bonaventure. Il reprendra cette idée du paradis qui est là derrière, qui est juste en dessous, comme enfoui. C'est ce qu'il appelle les vestiges du paradis, les restes. Un mot sur Saint Bonaventure, c'est l'intellectuel de la bande. Un siècle après Hildegarde, il est franciscain, disciple de Saint François, et il devient supérieur de l'ordre, après des études d'ailleurs tout à fait remarquables. En parlant d'études, il est contemporain de saint Thomas d'Aquin, et ils soutiennent leur thèse le même jour à Paris, dans ce qu'il faut bien appeler l'Institut catholique de l'époque. Vous savez, je vous l'ai déjà dit, la modernité, les siècles de la Renaissance et des Lumières, la modernité a rompu sur deux aspects avec la tradition chrétienne. Premièrement, la théorie des harmonies générales dont je viens de parler, et, c'est très important, elle a rompu avec la pensée de la création continuée. Depuis la modernité, en effet, grâce aux nouvelles découvertes scientifiques, la question de l'origine, du commencement mécanique du monde, est devenue centrale, ce qui n'est pas vraiment la question de la tradition catholique. C'est pourquoi, quand elle a suivi ce débat, elle s'est un peu perdue dans ses querelles avec les sciences modernes. Or, il se fait que la crise écologique nous impose de revisiter cette pensée traditionnelle, autant celle des harmonies générales, Hildegard von Bingen, que la création continuée. Il est plus important pour nous de penser que le créé tient en permanence son être de ce qui le crée, que de comprendre comment le monde fut. Déjà, avec saint Thomas, le compagnon de Bonaventure, nous pouvons grappiller une petite leçon de cette formule que je vous répète. Le créé tient en permanence son être de ce qui le crée. C'est-à-dire, ce qui le crée n'est pas jadis perdu, mais toujours là. L'existence nous est donnée, confiée, c'est-à-dire que nous ne tenons rien de nous-mêmes. Nous devons convertir nos projets d'autonomie et de mainmise, d'une part, et d'autre part, ce qui nous est donné ne le fut pas jadis, dans une lointaine origine qui s'éloigne de plus en plus, mais dans une présence active du Créateur. Il crée toujours. Or, dans cette maintenance du Créateur dans le créé, l'homme tient un rôle déterminant. Il est guetteur, gardien, pontife. Si l'on en croit saint Bonaventure, Dieu a créé le monde pour s'y déployer sous la forme du bon et du beau. Dieu se manifeste, se rend manifeste, se rend sensible dans la création. Le monde vient de Dieu et donc il déclame Dieu. Et par conséquent, il y conduit. C'est en ce sens que l'homme devient guetteur. Il contemple et jouit de la nature où est écrit, dit Bonaventure, dans la nature est écrit la Trinité sous forme de vestiges, d'images et de ressemblances, d'où ces trois baies qui donnent sur la nature à Saint-Bertrand de Comminges. Dieu peut être trouvé par qui est vigilant dans chaque créature. Pour Augustin, il fallait chercher Dieu au-dessus des choses sensibles, par-delà les choses sensibles. Ou par elles, à la limite, on pouvait chercher Dieu en dedans de nous. Mais pour Bonaventure, on peut trouver Dieu non pas au-dessus, non pas par-delà les choses sensibles, mais dans les choses sensibles. Alors c'est tout à fait différent. C'est l'art de jouir des choses sensibles. À condition, toutefois, de faire un juste usage de ces choses sensibles. Mais précisément, y chercher Dieu, y voir la trace de l'Éden, c'est en faire le meilleur usage qui soit. C'est honorer les choses d'une très haute dignité. Elles sont les vestiges de l'Éden. Elles ne sont plus que des matériaux exploitables à notre libre gré, mais de véritables manuscrits du Logos. Le Logos s'y est inscrit, le Logos y écrit. Il suffit de lire le livre de la nature. Guetteur, mais j'ajoutais, gardien. Et comment l'être? Eh bien, Hildegard von Bingen et avant elle Alcuin nous ont fait voir la création ordonnée par des règles de juste proportion. Tout est harmonieux, situation paradisiaque qui n'est pas perdue mais se laisse voir par le guetteur. Et dans cet ordre, dans ce monde créé harmonieusement, l'homme doit entrer dans l'ordre. Il doit entrer en consonance, tendre l'oreille, voir d'un autre œil, mais il doit aussi entrer dans l'ordre, c'est-à-dire ne pas le troubler, et donc en être le gardien en ne le troublant pas, car il est le microcosme du macrocosme, il en est l'écho, la réponse, et c'est en cela qu'il est le gardien. Et c'est pourquoi il doit pratiquer les vertus. Je vous cite un petit texte de Elias, un auteur médiéval, cité par Rémi Braque dans un livre excellent qui s'appelle « La sagesse du monde », où Elias, professeur d'université, dit ceci « Je veux que l'étudiant soit dans sa vie rangé, ordonné, et fasse, ordonné c'est cosmos en grec, et fasse un micros cosmos, afin que par l'intermédiaire de l'ordre qui est en lui, il connaisse l'unique principe du tout. » En effet, l'ordre est dirigé vers l'un, vers Dieu. Et que, par l'intermédiaire du microcosmos qui est en lui, microcosme de ses vertus, il connaisse le cosmos. Or, il sera microcosme si, comme dans l'univers, le cosmos, les choses meilleures l'emportent en lui sur les moins bonnes. Et donc, vous voyez, il y a, par les vertus, l'exercice des vertus, une véritable connaissance de l'intelligence du Créateur et de l'intelligence du monde. Gardien, donc, de la création, l'homme l'est encore par son propre travail, par création continuée, par création maintenue. Il faut entendre dynamis, c'est-à-dire créativité, et non pas conservation, ou vénération des antiquités. Le monde n'est pas un objet classé. La création doit être maintenue dans son dynamisme créateur. Ce qu'il faut maintenir, c'est en effet le dynamisme encore actuel de la création qui se continue. Revenons à l'adage de Bonaventure en matière de comportement à l'égard du monde. Il dit « il faut user droitement des choses sensibles ». J'explique un peu. comportement à l'égard du monde, ai-je dit, et non pas à l'encontre. N'oubliez pas qu'il est franciscain. Il y a donc de l'estime pour la matière, le végétal, les nappes d'eau, comme ici ce pêcheur, l'animal, les harmonies, le soin mutuel, etc. Donc, je reprends ma définition. Comportement à l'égard du monde, c'est user droitement des choses sensibles. User. Eh bien, user, vous savez qu'il y a deux mots latins, uti et fruitio, c'est-à-dire uti, employer les choses, elles n'ont rien contre le fait qu'on les utilise. Et fruitio, jouir, profiter, y trouver du plaisir, de la joie, de la satisfaction. Sachant que ce juste usage apportera une réciprocité. Si nous usons bien des choses, les choses s'en trouvent bien. Et enfin, user droitement, dit-il. Droitement, c'est-à-dire avec mesure, tempérance et gratitude. D'où cette image de Ratzinger buvant abondamment un litre de bière. Certainement, il faut le croire, il use droitement des choses sensibles. J'ai dit que l'homme est guetteur, gardien et pontife de la création. Pontife, ce sera l'objet du chapitre suivant sur la liturgie. Mais nous en avons fini avec ce deuxième groupe de personnages. Allons voir maintenant Isaac de l'Étoile. Isaac de l'Étoile, il est contemporain pratiquement de Saint Bernard. Il devient moine à 38 ans à Pontigny. Et 4 ans plus tard, il est envoyé là, dans cette petite abbaye, comme abbé de cette abbaye de l'Étoile. C'est incontestablement le plus philosophe des abbés cisterciens. On lui doit 54 sermons. Il en a évidemment fait plus, mais c'est tout ce qu'on a comme texte écrit. Et voici le sermon numéro 9. Vous avez une structure très lisible. Il dit « Il y a 6 livres écrits et donc 6 livres à lire ». Vous voyez qu'il y a une structure en emboîtement qui rend manifeste que le premier des livres, le cœur de la vie chrétienne, c'est celui de la nature qu'accompagne celui de l'enseignement. C'est au cœur, vous voyez. Les deux premiers livres sont intérieurs et obscurs, dit-il. Ils sont en Dieu, ils sont secrets, c'est la pensée de Dieu. Je vous lis une ou deux lignes. Le premier livre du Verbe est tout entier écrit au-dedans. Donc il faut comprendre en Dieu. Bienheureux ceux qui ont la grâce de le regarder et de le lire. C'est là que le Père a tout écrit en même temps et en une seule fois dans l'éternité. C'est de là qu'est, pour ainsi dire, transcrit tout ce qu'on peut lire dans le second livre, l'Esprit raisonnable. Donc ça, c'est très intéressant. Ça veut donc dire que l'Esprit raisonnable, l'intellect, a de quoi entrer dans l'intelligence du Créateur. Nous en avons déjà souvent parlé. Mais je vous ai montré cette étrange image de Noravank, c'est un tympan. Vous voyez en fait une trinité. Mais alors, qu'est-ce qu'elle est étrange ? C'est en Arménie. Regardez bien, il y a une tête d'homme, et en fait, c'est l'intellect humain. Dans la main du Créateur et sous le souffle du Créateur. Mais regardez bien, je vous ai mis deux petites flèches pour bien montrer qu'il y a comme un aller et retour. L'intelligence de l'homme peut pénétrer l'intelligence de Dieu, alors que toute l'intelligence de l'homme est insufflée dans notre esprit par le souffle créateur. Et en encadrant cette étrange image de la création, vous avez le Fils à gauche, crucifié, ressuscité, vous voyez, c'est une drôle de crucifixion, il est déjà dans la gloire, déjà retourné vers le Père, très vivant, à droite, et le Fils Logos, en tant que parole, sous la forme des Écritures que nous voyons à gauche du Père, c'est-à-dire à la droite du tympan. Ce sont, dit Isaac, deux livres obscurs et écrits au-dedans, C'est-à-dire, en effet, non sensible, non lisible dans les choses. Ce sont des livres intellectuels, pourrait-on dire, ou même divins, insaisissables. Notre intelligence, notre esprit, peut en saisir quelque chose, mais non le déchiffrer entièrement. Et notre esprit lui-même est, pour une part, indéchiffrable. Donc, livre obscur, dit-il. Et pourtant, ce sont des livres. Donc, ils sont à lire. Ce que permettent de faire les livres 5 et 6, qui sont comme leur équivalent de l'autre côté de cette structure en emboîtement. Alors je cite à nouveau, et je vous montre une nouvelle image de Noravank. Un cinquième livre a été écrit, un livre maniable. La sagesse même est devenue palpable. Le Verbe s'est fait chair. Le Seigneur Jésus lui-même, notre unique maître, devient aussi pour nous un livre. Voici donc l'incarnation, une sculpture toujours à Noravank. Regardez comme l'Esprit Saint la prend sous son ombre. Donc le troisième livre, c'est entièrement l'incarnation. Le sixième livre, le livre même que nous lisons, c'est le Nouveau Testament. Et ces deux livres ne sont pas nocturnes ni clos dans un monde intérieur, ils sont palpables, eux, ils sont sensibles, le Verbe s'est fait chair, ainsi que le livre de l'Écriture, bien sûr, que nous entendons à chaque liturgie, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu, ce que nos mains ont touché du Verbe de vie. Et au centre, donc, ce que Isaac veut promouvoir afin que tous puissent croire en lui, le livre de la nature et l'enseignement des maîtres. À la fois obscur et ouvert à tous. Il révèle, il relève de la sensibilité et de l'esprit humain restauré par l'Esprit Saint du fait de l'enseignement. Vous voyez, c'est vraiment là le cœur de l'exercice de l'école dans le monastère, avec une préférence pour cette sensibilité qui ouvre si vite à la louange et à la joie. Silencieuse et éminente prière. Et si, par défaut de sensibilité, on reste aveugle à cet évident appel de la beauté du Créé, alors l'instruction vient au secours. Et donc, voici ce que dit Isaac, ce que tu aurais dû voir du dehors vers le dedans, entends-le au moins d'un autre. En quelque sorte, l'enseignement nous rendra l'intelligence de la création première. L'intelligence, vous voyez comme c'est subtil et génial, l'intelligence rend sensible et le sensible donne à penser. Voilà, nous nous retrouvons après une large pause.